Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une journée de réunion avant la mobilisation de demain et les annonces de mercredi. La future réforme des retraites va rythmer l'actualité de ce début de semaine. Bras de fer en vue, nous y reviendrons dès le début de ce journal. Vous entendrez aussi les lycéens, familles de lycéens et enseignants de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Il y a un an, 151 lycéens avaient été mis à genoux par des policiers. Dans cette édition, nous nous pencherons aussi sur le sommet à l'Élysée entre les dirigeants russes et ukrainiens ce lundi. Et puis sur la fin de la campagne électorale en Algérie. La présidentielle aura lieu jeudi. Derniers ajustements du gouvernement dans la réforme des retraites. Les ministres se sont succédés hier à l'Élysée face à Emmanuel Macron et Édouard Philippe. C'est la majorité qui sera reçue aujourd'hui avant les syndicats dans l'après-midi. La réforme des retraites sera présentée mercredi après-demain par le Premier ministre Édouard Philippe. Mais les organisations syndicales veulent déjà se faire entendre avec une nouvelle mobilisation nationale prévue demain. Le bras de fer pourrait durer selon le directeur de l'Institut supérieur du travail, Bernard Vivier. Il s'en explique.
Le président de la République ne peut pas abandonner la réforme. Il en a fait un élément très important de son programme et aujourd'hui de son existence politique pendant encore 2 ans et demi jusqu'à l'élection présidentielle de 2022. Il ne peut pas baisser pavillon comme les organisations syndicales ne le peuvent pas. Donc il faut que les uns et les autres trouvent une sortie par le haut. Si cela ne se fait pas et s'il... Le président de la République est désavoué. Si le gouvernement n'arrive pas à faire passer sa réforme, nous entrons dans une crise à caractère politique et c'est le gouvernement qui peut être amené à se retirer et le président de la République a changé de Premier ministre.
Bernard Vivier au micro de Cosima Mezidi Alem. Les jours qui viennent, je vous le disais, seront très importants pour connaître la suite de ce mouvement. Une chose est sûre, demain, de nombreux enseignants seront encore mobilisés à l'appel des syndicats. Ils craignent de voir leur retraite baisser drastiquement. Les promesses de hausse de salaire n'y ont rien changé ces derniers jours, car les revendications sont profondes. Pour Philippe Mérieux, membre d'Europe Écologie Les Verts et professeur de sciences politiques et d'éducation à Lyon 2, le malaise est ancien.
Le malaise identitaire des enseignants existait, il a toujours existé. C'est difficile comme métier être enseignant. Mais jusqu'à présent, on pouvait dire que malgré tout, les enseignants faisaient corps avec leur institution. Ils se sentaient fiers d'appartenir à l'éducation nationale. Ils avaient le sentiment d'être solidaires avec un projet de société. Et même si c'était difficile d'enseigner, c'était une forme de fierté qui les tenait debout. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que leur métier est dévalorisé, que la reconnaissance sociale n'est plus au rendez-vous, qu'on leur demande des tas de choses sans leur donner les moyens de les réaliser et que les conditions d'exercice du métier sont de plus en plus pénibles.
Des propos recueillis par Manon Klein. Le syndicat enseignant, le SNES-FSU, appelle donc à la mobilisation demain. Côté transport, la grève, elle, est encore massive aujourd'hui, lundi. Trafic très perturbé à la SNCF ainsi qu'en Île-de-France à la RATP. Il n'y a pas que pour la réforme des retraites que le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye fait parler de lui en ce moment. Nous apprenons ce matin qu'il n'a pas déclaré sa fonction d'administrateur au sein de l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Cela n'apparaissait pas dans sa déclaration faite à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'il a été nommé au gouvernement. Une fonction de bénévole susceptible de faire naître un conflit d'intérêts. J'ai fait une erreur, reconnaît Jean-Paul Delevoye ce matin dans les colonnes du Parisien. Près d'un millier de personnes a manifesté hier à Paris pour la justice et la dignité. Des habitants de Mantes-la-Jolie, pour beaucoup, rassemblés un an après l'arrestation de 151 jeunes. L'image avait fait le tour des réseaux sociaux. Ces jeunes, âgés de 12 à 21 ans, à genoux, tête baissée, mains sur la tête ou dans le dos, dans un jardin privé et dans l'arrière-cour d'une association. Ils avaient été tenus en respect par des policiers un an plus tard. Et malgré le non-lieu de l'IGPN, leur famille reste mobilisée, Valentin Dunant.
Violence policière, justice arbitraire, mets-toi debout, on lâche pas l'affaire.
Devant le cortège, les mamans et les enfants expriment leur colère un an après. Yasser a 18 ans, il en garde.
Un souvenir assez amer, même si bon, ça ne veut pas dire que je suis traumatisé. Je sais qu'il faut avancer, qu'il faut combattre. Je l'ai encore dans la gorge, dans le sens où on a été indigné, c'est pas rien.
Et cette indignation est toujours présente, notamment pour cette mère de famille.
Notre démarche, en fait, c'est de faire reconnaître que nos enfants ont été injustement traités. Et on ne parle même pas des irrégularités de conditions de garde à vue et de tout le reste, les clés violences, matraquages, insultes, etc.
Les professeurs également se souviennent de ce 6 décembre 2018 comme Sophie, professeure d'économie.
Ce qui s'est passé, ça m'a vraiment horrifiée. Bien sûr, des souvenirs, on en a toujours, parce que quelque part, une centaine de jeunes qui se fait agenouiller, en plus on entend un policier dire « voilà, vos professeurs seront bien contents, voilà une classe sage », pour moi c'est affreux. Quoi.
Un an après, l'enquête préliminaire de la police des polices a débouché sur un non-lieu, mais le collectif de mamans s'est constitué partie civile pour obtenir l'ouverture d'une instruction.
C'était Valentin Dunat de France Bleu Paris pour France Culture. Après avoir réuni tous les piliers de sa majorité à l'Élysée pour parler réforme des retraites, ce lundi, Emmanuel Macron recevra ensuite des chefs d'État. La chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un sommet inédit depuis 3 ans pour tenter de résoudre le conflit dans l'est de l'Ukraine où s'affrontent forces ukrainiennes et milices pro-russes. Le président français y est très attendu sur sa stratégie de dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine, Bertrand Galichet.
L'Élysée a beau insister sur l'initiative franco-allemande qui permet cette rencontre, Emmanuel Macron figure en première ligne dans cette réunion sur l'Ukraine. Le président français appelle à un dialogue sans naïveté avec Vladimir Poutine. Il est donc attendu sur les résultats de ce sommet. La sécurité de l'Europe est une priorité, insiste Emmanuel Macron, qui veut des avancées sur la question ukrainienne avant d'aller plus loin dans le rapprochement avec la Russie. Qu'obtiendra-t-il du président Poutine, dont les éventuelles concessions seront regardées à la loupe? L'enjeu principal est l'organisation d'élections dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où se poursuit cette guerre sporadique qui a déjà fait plus de 13 000 morts depuis 2014. Le nouveau cessez-le-feu entré en vigueur en juillet a seulement permis une désescalade, alors que beaucoup de questions restent sans réponse. L'action des milices, les mines qui infestent la région, les prisonniers à échanger. La France vise à terme une reprise complète du contrôle du territoire par l'État ukrainien.
Et j'ajoute qu'hier à Kiev, près de 5000 personnes ont manifesté appelant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ne pas céder à la pression de Moscou. Nous reviendrons sur ce sommet russo-ukrainien dans les enjeux internationaux avec Julie Gacon après ce journal. Avant cela, penchons-nous sur la campagne électorale qui est terminée depuis hier soir en Algérie. La présidentielle aura lieu jeudi. Une élection cruciale selon les autorités algériennes, 8 mois après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika. Pourtant, ces dernières semaines, ces derniers jours, la campagne électorale n'a pas été très suivie, Leïla Berhatou.
Ce n'était pas une campagne comme les autres. Après 22 jours, la plupart des panneaux électoraux de la capitale sont restés sans affiche. Les salles ont eu du mal à être remplies. Certains meetings ont été chahutés par la population, ce qui a provoqué des arrestations. Les 5 candidats qui ont préféré les meetings dans les villes du centre et du sud, où ils ont fait des promesses de développement, n'ont pas pris position sur le mouvement de protestation qui dure depuis 10 mois et ne se sont pas non plus prononcés sur la question de la libération des manifestants incarcérés. La presse parle d'une campagne imprévisible, embarrassée, difficile, faite dans l'indifférence. La soirée électorale diffusée en direct à la télévision, où les candidats ont répondu à des questions posées par des journalistes, n'a pas provoqué plus d'engouement. Du côté des autorités, on répète que c'est la seule solution à la crise, que c'est un facteur de stabilité. D'ici jeudi, les candidats ne doivent plus prendre la parole en public. Le vote qui a débuté à l'étranger commence également ce lundi, pour les populations nomades du pays.
En Grande-Bretagne aussi, des élections seront organisées jeudi, élections législatives anticipées. Les Britanniques vont à nouveau décider de l'avenir de leur relation avec l'Union européenne à l'occasion de ces élections. En bref encore, notons que Sanna Marin est devenue hier à 34 ans la plus jeune première ministre de Finlande et l'une des plus jeunes dirigeantes au monde. Sanna Marin a été élue de justesse par son parti social-démocrate en remplacement du chef du gouvernement finlandais. La majeure partie de la France métropolitaine sera sous la pluie ce lundi. Seuls les bords de Méditerranée et la Bretagne seront au sec. De la pluie donc majoritairement et des température qui remonte un peu ce matin. Il fait 7 degrés à Besançon, à Lyon et à Lille, 10 degrés à Paris et à Rennes, 11 degrés à Bordeaux, 13 à Marseille.